7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix, plutôt versant société, quoique. Elena Gabrielian avec nous. Bonjour, Vitayo.
Vitayo.
Vous êtes arménienne, mais vous avez grandi en Ukraine.
Oui,
donc, ça y est, j'ai appris un mot en ukrainien pour bonjour. Et vous travaillez pour la rédaction russe de RFI. Et vos vœux, d'ailleurs, en ukrainien
Найкращого, ce qui veut dire les meilleurs vœux.
C'est ça, bonne année à vous aussi, Elena. Samira Ibrahim, bonne année Samira.
Meilleurs vœux, bonne année à tous.
Notre tchatcheuse arabophone de Monte Carlo d'Oualia, salam alaikum. Mais alors pour le bonne année,
je... salam, sana saïda.
Ah ben merci, bonne année à vous Samira. Et notre voisine chilienne, hola Paola.
Hola Emmanuel, hola a todos.
Et
feliz año nuevo.
Et très bonne année à vous. Et en ce début d'année 2018, il y aura bien sûr des coups de gueule et des coups de cœur, ça le savent très très bien faire, ou des coups de griffe, je ne sais pas, sur la cause des femmes ou encore sur les dérives des youtubeurs tombés dans le ravin de la crétinerie internationale. Ça, c'est devenu votre dossier de spécialité,
ouais,
hein, Paola. Et des questions existentielles aussi. Faut-il faire une liste de ses bonnes résolutions pour l'année, ou plutôt faut-il absolument réaliser ses bonnes résolutions? C'est peut-être ça la meilleure question à se poser. Et en fin d'émission, cerise sur le gâteau, enfin si on peut dire, reportage dans un restaurant naturiste à Paris. Vous ne connaissez pas?
Pas encore.
Je vois les yeux écarquillés des tchatcheuses dans le studio. Naturiste, pour les auditeurs, ça veut bien dire tout nu. Donc pour savoir comment a travaillé notre reporter Charlie Dupio.
Eh bien, il était tout nu.
Rendez-vous dans 45 minutes et vous saurez dans quelle tenue était Charlie Dupio.
Je n'ai aucune bonne résolution. Mais parce qu'il ne faut en avoir aucune, parce qu'elle ne se réalise jamais.
Rester en vie, moi, personnellement.
D'apprendre, d'écouter.
Je voudrais passer le plus de temps possible avec mes enfants, pendant que je travaille sur des choses qui me tiennent à cœur.
Je veux bien et avec plaisir prendre cette résolution de respecter autrui, du matin au soir et même la nuit. Mais j'aimerais bien ne pas être tout seul.
Promis, juré, craché, demain, j'arrête toutes mes conneries. Promis, juré, craché, demain, j'arrête toutes mes conneries.
Voilà, ça c'est la meilleure bonne résolution finalement, la petite musique à la fin. Les tchatcheuses, côté bonne résolution, on dit quoi, Samira?
Alors moi je déteste les bonnes résolutions parce qu'en général on a des petits calepins avec les to-do list et c'est toujours les mêmes qui reviennent chaque année et ça me stresse. On sait qu'une bonne résolution c'est que voilà...
C'est toute l'année les petits calepins, pas besoin du 1er janvier.
Mais on sait qu'on la réalisera jamais, alors le sport c'est chaque année. Mais cette année quand même j'ai décidé que j'allais essayer d'arrêter le sucre. Alors autant vous dire...
Oula, je sais d'avance pour notre prochaine émission sur le sucre alors.
Je sais d'avance que ça va être très dur.
Et pourquoi donc arrêter le sucre avec votre ligne de mannequin, Samira? C'est si doux et si bon le sucre.
Non, c'est pas bon du tout, ça ne sert absolument à rien et ça nourrit plein de petites bactéries inutiles et ça nourrit beaucoup de maladies.
Vous écoutez bien, priorité santé, les voisins, les voisines. Et de votre côté, Paola Martinez.
Moi, je n'ai pas de résolution pour cette année, mais j'ai une citation magnifique que j'ai trouvée, c'est africaine, qui dit « Si tu veux du miel, il faut affronter les abeilles ».
Et magnifique.
Et voilà.
Si tu veux du miel, affronte d'abord les abeilles. Sous-entendu.
Voilà, sous-entendu.
Du courage, de la persévérance et puis regarder les problèmes en face finalement. Elena Gabrielian, vous aussi ça vous énerve les bonnes résolutions?
En fait, ce qui m'énerve surtout, c'est de voir cette avalanche de messages sur Facebook où les gens ils font leur bilan et après ils disent qu'ils vont, comme par exemple le fondateur de Facebook d'ailleurs, Zuckerberg, qu'il va porter la cravate tous les jours il va
c'est
essayer
passionnant,
de
ça, comme bonne résolution,
rencontrer plus de gens et faire plus de voyages. Donc voilà, moi je me souviens avec ma sœur, on écrivait nos rêves sur un bout de papier, on brûlait, on mettait dans la bouteille de champagne et il fallait compter jusqu'à 12.
Tous les buvais en même temps.
Voilà, on croyait vraiment que nos rêves allaient se réaliser. Parfois ça se réalisait, parfois non. Mais voilà, je pense que je crois plus au mécanisme de petites tâches, c'est-à-dire de me fixer un petit objectif tous les jours et je ne crois pas à la magie de Noël ou de Nouvel An que le à partir de 1er janvier.
Voilà, tout va changer.
Ce coup de pression va nous aider à réaliser nos objectifs plus facilement.
Alors, même le gouvernement américain, d'ailleurs, sur son site officiel, dresse pour ses citoyens une liste des objectifs.
J'ai vu que pour réaliser ces objectifs, l'État, pas seulement incite ses citoyens, mais aussi dit que le gouvernement américain va aider, par exemple, à acheter une maison ou lancer un business. J'ai pas vu sur le site de l'Élysée nous conseiller de faire des achats.
Ça
et
fait
tout.
Partie de vos réclamations. 69% des Français disent prendre de bonnes résolutions et les plus courantes, maigrir, faire du sport. 5% des Français disent toujours tenir leur bonne résolution. Voilà. Et ben vous êtes dans la moyenne. Après les bonnes résolutions, puisqu'on a parlé pour ne rien dire ou à peu près depuis le début de cette émission, revenons à ce qui intéresse tout le monde, l'argent. Paola Martinez, vous allez vous installer en Islande.
Oui. C'est un petit pays, 330 000 habitants, une île volcanique qui a été connue il y a pas longtemps, enfin il y a quelques années pour ses éruptions qui nous ont arrêtés, ils ont paralysé presque tous les vols européens et internationaux. Et là, cette année, grand coup de cœur, l'Islande, c'est le premier pays à légiférer et strictement sur l'égalité salariale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Depuis le 1er janvier, la loi entre en vigueur.
Toutes les entreprises privées et publiques de plus de 25 salariés devront appliquer une stricte égalité en matière de salaire, ce qui veut dire que hommes et femmes devront gagner exactement la même somme à poste égal.
Ouais. Sinon, il y a des amendes, c'est ça ?
Sinon, il y a des amendes assez strictes. Il faut savoir quand même que l'Islande, c'est le pays qui a toujours été les bons élèves en matière d'égalité. C'est dans toutes les années, lors des classements des forums économiques mondiaux, elle sort la tête haute sur l'égalité. Depuis son historique, je veux dire que tout a été fait pour que les femmes et les hommes puissent être en fait en égalité face à la justice, face à l'éducation aussi des enfants, par exemple, en ce qui concerne les congés paternité, maternité, etc. Et aujourd'hui, il y a cette loi qui sort, qui va être appliquée strictement, ce qui s'est dit.
Mais parce qu'il y a une culture qui s'y prête aussi.
Bien entendu, c'est une culture qui s'y prête. Et c'est aussi un pays qui, encore une fois, depuis les années 80, où ils ont élu la première femme à la tête du pays. C'était une première aux années 80.
Moi, je me demande quand même comment est-ce qu'on peut prouver l'écart salarial.
Bien
objectif,
entendu.
C'est toujours très compliqué.
Voilà,
finalement.
Justement. C'est là, en fait, j'ai même une réserve. Je me suis dit, c'est très bien, c'est une parfaite loi qui devrait être un exemple pour tous les autres. Mais en même temps, après, il faut voir dans la pratique comment ça va s'appliquer. Mais il faut savoir aussi
Rappelons qu'en France, par exemple, on a
une loi.
À travail égal, 15% d'écart entre les hommes et les femmes. 25% si on compte le temps partiel. Mais
Écoutez, et au Chili, vous savez combien c'est 32%
d'écart
des salaires entre femmes
à job égal.
À job égal, ce qui nous place en 131.
Dans travail égal.
Wow. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Ce que moi, je veux dire par là, bien entendu, c'est une petite île, c'est une sorte de laboratoire. Et c'est vrai aussi que l'Islande, ça a son historique en matière d'égalité. Mais en même temps, il faut voir maintenant, 2018, peut-être une bonne résolution pour l'Islandais et pour le gouvernement, qui vont appliquer ces lois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, en fait, que ces lois vont être appliquées, parce que c'est déjà vu par le passé que l'Islandais, en fait, ils font tout pour que les choses soient égalitaires entre les hommes et les femmes.
La question, est-ce que les femmes négocient aussi bien leur premier job que les hommes, parce qu'en France, c'est ça le problème.
Bien
on
entendu.
Démarre très mal dès le début.
Oui, et il y a beaucoup de...
Et ensuite, ça s'enchaîne.
Ça s'enchaîne, parce qu'il y a toujours cette chape des plombs patriarcale, entre guillemets, qui opère toujours, dans lesquelles les femmes sont un peu pointées du doigt, avec des préjugés, la maternité, les grossesses, etc. Donc, espérons bien, coup de cœur pour cette loi, mais on va voir si ça donne l'exemple aux autres pays européens et mondiaux et dans le monde entier.
Samira Ibrahim, alors vous revenez sur le sort de cette présentatrice égyptienne dont on a pas mal parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui a été condamnée à 3 ans de prison pour avoir parlé de grossesse hors mariage à la télévision. Voici la bande-son du scandale.
ممكن تبقي سنجل مام طبعا ممكن تبقي الأب والأم في وقت واحد بمزاجك أب مزاجك وغصب عنك يعني لو اتطلقتي هتبقي سنجل مام ولو بعد الشر يعني بقيتي أرملة كمان هتبقي سنجل مام وممكن انتي تختاري بنفسك انك تبقي سنجل مام من قبل ما تتجوزي هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. شوف
كلنا فين بشتري لو une petite traduction.
Ça c'était la présentation. Donc évidemment le thème c'est est-ce qu'une femme peut être une mère célibataire, et elle explique en fait que effectivement une mère célibataire c'est aussi une mère qui a perdu son mari peut-être, qui est veuve. Une mère célibataire c'est une mère qui doit prendre en compte sa famille sans l'aide d'un mari.
On remarquera que mère célibataire n'existe pas dans la langue arabe. Elle dit single mom.
Oui, elle le dit en anglais. Tout à fait. Elle le dit en anglais parce que effectivement, une mère célibataire n'est pas une mère reconnue dans les sociétés arabes, donc dans tous les pays arabes. Pour procréer, il faut avoir une maman et un papa. Voilà. Il faut qu'il y ait surtout mariage parce que les relations sexuelles en dehors du mariage ne sont pas forcément permises.
Alors, cette présentatrice est Doha Salah, hein, qui présente le Dodi Show sur une chaîne privée égyptienne. Et elle arrive sur le plateau, c'était en juillet dernier, avec un faux ventre de femme enceinte.
Nahar TV. Tout le problème, c'est... alors, évidemment, c'est complètement disproportionné mettre quelqu'un en prison, une femme en prison, parce qu'elle a traité un thème comme celui-ci. Ici, la mère célibataire, c'est vraiment ridicule. En revanche,
avec un brin de provocation quand même pour l'Égypte, où elle suggère aux femmes de se marier le temps de la grossesse et de divorcer ensuite si besoin, quand elle dialogue avec le public.
Alors ça, c'est nous, notre façon de voir les choses en Occident, parce que en fait, cette jeune présentatrice s'est basée sur un film et qui était au cinéma en fait en février dernier à l'occasion de la Saint-Valentin. Il y a eu un film qui s'appelait J'achète un homme, qui a été présenté et
égyptien.
Un film égyptien où l'histoire, c'est qu'une femme qui a vécu une histoire d'amour un petit peu compliquée divorce et finalement elle a cet instinct maternel, elle a envie d'avoir un enfant, mais elle ne veut plus revivre une histoire d'amour à l'issue de cet amour, c'était un échec. Donc elle a envie d'avoir un enfant, donc elle sait qu'il faut passer par le mariage, donc elle décide de chercher un homme, de lui proposer un deal, c'est-à-dire le temps de procréer, de se marier, le temps de procréer et puis après divorcer. Évidemment, elle lui propose de l'argent. Donc, elle part de cette histoire pour parler de ce désir d'avoir un enfant dans une société qui ne permet pas...
D'un tabou aussi social, mais bien entendu.
D'avoir un enfant sans un homme.
Sans un homme, et puis surtout qui ne permet pas également la procréation.
Donc elle lance le débat et elle est condamnée pour incitation à la débauche.
Le problème, c'est comment elle lance le débat. Moi, je trouve que sa présentation était... C'est des thématiques quand même très compliquées. J'ai l'impression que ce qu'on lui en veut pas tant d'avoir parlé de ce sujet, parce que finalement on peut parler de tous les sujets dans les pays arabes. On a parlé de la masturbation à la télévision, on a parlé des relations sexuelles hors mariage, on a parlé. Donc c'est des sujets évidemment tabous. En revanche, le fait qu'elle vienne déguisée, affublée d'un faux ventre de femme enceinte, avec
une
petite robe en satin. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, et c'est un peu contre-productif parce qu'énormément de femmes aussi, c'est un sujet quand même très important. Les femmes dans les pays arabes ont peut-être envie d'avoir des enfants, mais n'ont pas envie de se marier. Donc c'est un sujet. Et puis il y a celles aussi qui ont aussi des rapports sexuels en dehors du mariage. Mais le problème, c'est que c'est contre-productif parce qu'elle en parle en étant déguisée, donc c'est maltraité. Donc il y a une responsabilité aussi de la chaîne. Donc c'est très bien d'aller parler de sujets comme ceci et de bouleverser un petit peu la population, mais il faut le faire correctement.
Je
n'ai
pas compris
sérieusement.
Elle a fait appel, elle est condamnée à 3 ans.
Mais elle est condamnée
et elle doit payer.
Elle est en prison.
Oui, mais c'est une condamnation avec sursis. Elle a dû payer 500 euros d'amende.
Mais le programme est suspendu.
Il a été suspendu pendant 3 mois. Mais en tout cas, c'est des sujets tabous. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est comment l'œil avec lequel on regarde ce genre d'histoire quand on est en Occident aussi. On n'a pas de leçons à donner. Nous aussi, on a beaucoup de problèmes. Quand vous voulez régler ce genre de problématiques dans des pays qui sont quand même très conservateurs, il faut aussi savoir comment.
Alors, est-ce qu'elle aurait dû mettre les pieds dans le plat de cette manière-là? Vous dites non. Enfin, mal fait, contre-productrice.
Je pense qu'elle avait un boulevard. Ce film était incroyable. C'était un film de comédie, mais en même temps qui mettait le doigt sur une thématique vraiment brûlante et importante. Elle aurait pu en parler autrement. Elle n'avait pas besoin d'être déguisée. Je veux dire, c'est un sujet quand même assez important et ce n'est pas la meilleure manière. Alors, moi, je me suis demandé s'il y avait un rédacteur en chef dans cette chaîne de télévision.
Ça, c'est c'est un autre débat.
Je me suis demandé si cette émission était cadrée et je me suis demandé si c'était pas justement une façon de faire un peu le buzz facilement.
C'est possible.
Parce que c'est aussi possible.
Ça, c'est une question maintenant qui est très fréquente. Polémique aussi sur cet avocat égyptien qui a élégamment déclaré que violer une femme qui porte un jean déchiré, c'est un devoir national. Voilà, donc il y a une bonne ambiance dans ce pays.
Très bonne ambiance, mais j'ai l'impression que depuis, toutes les femmes portent des jeans déchirés en Égypte. Alors, c'est aussi peut-être une réponse. Elles résistent.
Paola Martinez, un coup de chapeau à une femme au Mexique. Son surnom, Marichui.
Marichui, oui. Il s'appelle Maria de Jesús Patricio Martinez, Cocorico.
Donc, c'est un nom assez répandu.
Oui, je sais bien, mais bon, quand même, je prends de très près la recommandation. Donc, c'est la première fois qu'une femme, qu'une candidate indigène se présente à la présidentielle mexicaine qui aura lieu en juillet 2018.
Donc, amérindienne, en fait.
Amérindienne, il faut le dire. Et donc, Marichui.
Premier peuplement du continent,
exactement.
On va le repréciser.
Elle a 53 ans, elle a consacré toute sa vie à la médecine traditionnelle, c'est Nahua. C'est une originaire, en fait, c'est une tradition qui est maya, pardon, du Mexique. Et donc, elle est issue, en fait, du Congrès national indigène qui est toute son origine dans les années 90 au Mexique avec les zapatistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. Avec le commandant Marcos, avec sa capuche, etc. Et donc, elle sort justement de ces mouvements des terres, dont les indigènes qui sont énormément discriminés et mis à l'écart au Mexique.
Sur 10 sont pauvres.
Tout à fait. 10% de la population indigène existe au Mexique et sont les plus discriminés. Donc, elle, Marichui, il faut dire quand même qu'elle n'a pas encore les signatures.
C'est ce que j'allais vous demander. Ah. Elle n'a pas encore
les signatures. Ils ont jusqu'au mois de février.
Candidate pour le moment.
Tout à fait. Elle a jusqu'au mois de février pour poser sa candidature officielle. Mais pour l'instant, elle sillonne le pays. Et elle a soulevé une vague d'optimisme auprès de la population indigène, surtout les femmes. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est les femmes, d'ailleurs. Elle dit,
enfin, la population indigène, c'est quoi? C'est 10% du pays. Alors, elle dit qu'elle veut séduire aussi les milieux étudiants pour une société plus juste. Quelles sont en admettant qu'elle ait ses signatures, quelles sont ses chances de rassembler finalement au-delà de sa communauté amérindienne?
Elle a des chances, surtout dans la jeunesse mexicaine, qui est vachement désœuvrée aujourd'hui, il faut le dire. C'est un pays qui, quand même, il a les tristes records d'être les pays où il y a plus de meurtres par jour au Mexique aujourd'hui, qu'il est un peu gangréné aussi par les narcotrafiquants. Et donc, du coup, à une classe politique qui fait absolument les yeux fermés à toutes les problématiques sociales, etc. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, elle se sent quand même assez identifiée à ces luttes, parce qu'il y a une lutte qui n'est pas seulement une lutte de la terre, qui concerne vachement les indigènes.
Plus de justice en général.
Plus de justice sociale. Il faut dire, par exemple, qu'il y a 57% de la population qui travaille au Mexique, il est vulnérable. Et là, notamment les jeunes. Donc, forcément,
c'est pas un hasard, finalement, si c'est une femme qui porte la cause d'une minorité.
Comment, pardon?
C'est pas un hasard, finalement, si c'est une femme qui porte la cause d'une minorité.
Et justement, c'est pour ça que tous les projecteurs sont sur elle aujourd'hui, parce que la double casquette femme, indigène, qui appartient à une minorité, qui est très discriminée.
Elle coche toutes les cases.
Et toutes les cases. Et aussi, il veut complètement rompre, en fait, l'établissement mexicain qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière.
À suivre, évidemment,
l'histoire de Marichui. Grand coup de cœur, Marichui, et j'espère qu'il y aura sa signature en février.
Elena Gabrielian, la Russie est entrée en campagne présidentielle, ça sera en mars, 18 mars. Évidemment, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 18 ans, c'est le favori. Mais vous souhaitiez souligner la candidature pour la première fois d'une femme musulmane.
Oui, c'est un peu la même histoire, mais ça n'a pas du tout la même signification, c'est-à-dire femme musulmane qui est d'une république de Daghestan, située dans le Caucase du Nord, donc elle est issue d'une minorité, et une femme. Elle se présente aux élections face à un candidat. Aina Gamzatova, voilà. Elle a 46 ans, elle est journaliste, elle dirige le plus grand groupe médiatique musulman en Russie, islam.ru. Elle est également la femme du mufti de Daghestan et sa conseillère. Donc, elle s'est présentée aux élections en décembre, sachant que les élections sont au mois de mars. Donc, en 3 mois, j'imagine même pas ce qu'elle va proposer à l'ensemble des Russes, sachant qu'elle n'est même pas connue.
Donc, sous-entendu.
C'est vraiment, ça reste pour moi plus un coup de communication parce que sa candidature ne pouvait pas finalement être présentée sans l'aval du Kremlin. Et j'ai plus l'impression qu'au Kremlin, on peut montrer à la communauté internationale que finalement, on respecte aussi bien les droits des femmes que les droits de minorités, que
pour
c'est un pays
une élection dans l'issue déjà connue.
Oui, parce que
suspense.
Vladimir Poutine est à 75% pour l'instant.
Je pensais que vous alliez nous parler de cette ex-starlette bling-bling de télé-réalité, qui est une autre candidate d'ailleurs.
Xenia Sobchak. Oui, mais en fait,
ça nous rappelle un peu l'époque Berlusconi en Italie.
Oui, un peu. Mais elle est plutôt la candidate des libéraux, Aina Gamzatova, et la candidate des musulmans. Donc, à chaque catégorie, son candidat.
Ouais, mais un outil bien pratique, les femmes dans les élections présidentielles. Vous restez avec nous, les tchatcheuses. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI, juste après le flash. On a encore beaucoup d'autres sujets à discuter.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses sur RFI, trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité côté société avec vous Elena Gabrielian, Samira Ibrahim, Paola Martinez. Année de tous les doutes et de toutes les dérives, je dirais, Paola Martinez, vous êtes devenue S-spécialiste pour partager vos désespoirs concernant, alors là cette fois-ci, le youtubeur américain Logan Paul qui a encore sévi le soir du réveillon pour s'excuser ensuite.
Hey guys, it's Peter. What is happening? It's the internet. They're coming for you, Logan. Run!
Yesterday, Logan Paul uploaded a video titled "We found a dead body in the suicide forest." With this very tasteful thumbnail. This must be a great video. Can't wait to click on this. He didn't actually show a dead body in his video. No. I know he's out for that daily
Logan Paul est un beau garçon de 22 ans qui parle de lui à la troisième personne, vous aurez remarqué. Il se met en scène dans un tremblement de terre au début de la vidéo pour ensuite s'excuser. Alors s'excuser de quoi exactement, Paola Martinez? Expliquez-nous rapidement avant qu'on en débatte.
Il faut pas dire que moi je passe mon temps sur les réseaux sociaux, mais en fait comment je suis maman des deux ados.
Vous participez à la notoriété de ces gens-là.
Bien entendu, mais en même temps je m'inquiète et je m'interroge sur ça. Et Logan Paul qui est, c'est 22 ans, américain, qui s'est fait connaître il y a quelques années pour ses vidéos absolument loufoques au potage et survoltées sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. Et qu'est-ce qui
s'est
passé?
Pour résumer, c'est du n'importe quoi.
Tout à fait.
Sauf que là, il est allé un peu trop
loin.
Oui,
bien entendu, parce qu'en fait, il fait n'importe quoi pour aller plus des clics. Et le 31 décembre, il a publié une vidéo sur YouTube, encore une fois, dans la forêt des suicidés. C'est une forêt japonaise, c'est Aoyakahara, au pied du mont Fuji, qui est tristement connu, notamment parce que les gens vont finir ses jours dans cette forêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai vu la vidéo. Il va avec ses potes, avec ses amis, il filme les parcours et à un moment donné, il trouve dans un arbre un homme qui est pondu. Et il ne se limite
et
pas
il plaisante à propos des suicides au Japon.
Il plaisante à propos de suicides, pas content de ça. Il filme quand même le corps de près. Il floute heureusement sa tête, mais en même temps, il a eu le temps de filmer, de monter, de poster cette vidéo et en plus de se permettre de faire des commentaires complètement déplacés sur les sujets.
Et ce garçon a 15 millions d'abonnés sur YouTube.
Exactement.
Ça plaît.
Et c'est ça justement ce que j'étais. Bon, d'une part, je me suis dit, bon, attention, nos ados, nos enfants sur ces dérives sur Internet, parce qu'ils font de tout et n'importe quoi, encore une fois, pour faire le buzz, pour avoir des clics et pour aussi avoir des sponsors, parce que ça a tout ça derrière.
Il y a beaucoup d'adolescents qui rêvent de devenir YouTubeurs et de faire fortune comme
Exactement.
Lui. 6,5 millions de dollars, ça, sa fortune estimée à Los Angeles. Il a d'ailleurs avec son frère, parce qu'au début il était coéquipier avec son frère, après
fait.
Ils se sont brouillés.
Et maintenant il se dispute avec lui, c'est une histoire. Bon, okay, ça, vraiment ça n'a pas d'intérêt. Et ce qui m'inquiète là-dessus, c'est en fait, d'une part, j'étais assez soulagée parce que j'ai interrogé pas mal d'ados autour depuis cette vidéo. Ils étaient assez choqués en fait de voir notamment cette dérive de ces jeunes qui
choqués,
se croient.
Mais ils cliquent.
Mais ils cliquent quand même. Mais encore une fois, la responsabilité des réseaux sociaux, la responsabilité d'Instagram, la responsabilité de Facebook, des YouTube, qui met en scène notamment ces gens-là et qui font quand même la part du marché de ces gens-là. C'est ça qu'il faut.
Mais comment
faut
ça
faire
se fait
attention.
Que ce type de vidéos ne sont pas bloquées par YouTube immédiatement?
Il n'a pas été bloqué immédiatement. Maintenant, évidemment, la chaîne dit, écoutez, nous, on ne peut
Elle
pas tout vérifier.
Disponible.
Ce qui est l'excuse gratuite qui se donne à chaque fois. Et c'est bien entendu, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a 7 milliards de voisins et 7 milliards de voisins qui cliquent sans arrêt sur les réseaux sociaux. Donc forcément, on ne peut pas contrôler tout.
Bon, tout ça pour dire aux voisins, ne cliquez plus là-dessus.
Ne cliquez plus là-dessus. Surtout pas, suivez pas cet abruti. Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti qui fait tout ça pour de l'argent. À chaque fois qu'il peut, il met son sponsor et ses chemises qu'il faut acheter, des trucs complètement débiles. Et il faut surtout veiller que nos enfants, que nos ados, que nos petits bouchous, ils ne soient pas exposés en permanence à des conneries pareilles.
C'était le coup de gueule de
c'est compliqué,
Paola
c'est
Martinez.
C'est très compliqué, mais il faut faire une part des résolutions de 2018.
Voilà, jusqu'où va-t-on aller dans le délire narcissique des youtubeurs? Il y a un artiste, Samira Ibrahim, dont vous souhaitiez nous dire quelques mots, justement, qui s'interroge. Via sa fonction d'artiste sur le concept du selfie. Bah, bienvenue toujours dans la culture narcissique.
Hein. Eh oui, tout à fait. C'est Badr Bouzoubaha qui est marocain et qui présente un projet assez intéressant qui s'appelle Faces Project et qui sera exposé à l'Institut français à Casa.
Donc Casablanca au Maroc.
Exactement. Il est parti d'un constat que nous faisons tous. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, fait des selfies. Les gens sont à la recherche de clics, de likes, ça vous fait vous sentir bien. Alors maintenant, il y a des mises en scène, alors il y a des filtres, on ne se prend plus en photo normalement. Donc il a décidé, il ne juge pas les gens, il n'est pas là du tout pour faire la morale. En revanche, il a envie de revenir à quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus profond. Il a décidé de mettre en scène des gens. Il ne les met pas vraiment en scène parce qu'il leur demande de venir, de poser. Et encore, pas vraiment de poser.
Donc il fait des faux selfies, version artistique.
Il fait des photos, parce que lui, il est photographe. Il prend en photo des gens, des vrais gens.
C'est pas très nouveau.
Sans maquillage.
Les non. portraits de photographe.
C'est très simpliste. C'est
en noir et blanc. Ça s'appelle réinventer l'eau tiède.
Ben, aujourd'hui, le naturel est devenu nouveau.
Antinaturel.
Mais oui, exactement. Parce que cette folie des selfies, d'ailleurs, je ne vais pas vous sortir les chiffres de gens morts à force de faire des selfies n'importe comment, pour aller encore plus loin, pour aller... je sais pas, on recherche l'extra dans une vie ordinaire à travers des selfies.
Et l'acceptation
dans
de
certains
l'autre
pays.
Aussi.
Moi, j'ai un copain libanais qui me disait, mais tu sais, certains jeunes maintenant font des sorties selfies ou des sorties juste Instagram. C'est-à-dire qu'on se prépare et l'objectif de la sortie, c'est d'aller faire des photos pour les poster sur Instagram. Donc, on ne vit plus pour soi, on vit pour se donner en spectacle. Donc, ce jeune artiste marocain revient à la simplicité, au naturel. Il dit, il n'y a rien de plus beau. Qu'un voilà. visage dénué de tout filtre et de maquillage. Alors, c'est ouvert à tous. Il a shooté des amis, des voisins, des personnes anonymes, mais aussi des personnalités.
La vie sans Photoshop.
Pose, voilà, il les pose et il les prend en photo. Et on voit les rides, on voit le regard fixé sur une caméra. Voilà. Et voilà, on voyage.
Au lieu de faire des selfies, faisons des enfants. C'est un peu la question que se posent les autorités russes, Elena Gabrielian, puisque depuis quelques jours, les jeunes parents en Russie vont toucher des aides financières à la naissance de leur premier enfant. Est-ce que ça va suffire pour inciter les couples à faire plus d'enfants, parce que ça se passe mal la natalité en Russie, non ?
Oui, parce qu'à l'horizon de 2035, la Russie va perdre de 400 000 à 1 million d'habitants. Et pour lutter justement avec cette crise démographique qui est due aux difficultés des années 90 que la Russie avait vécues après la chute de l'URSS, les autorités ont décidé d'adopter cette mesure. Donc chaque famille, enfin les jeunes parents vont recevoir 550 euros. Bon, pour comparer avec le salaire moyen en Russie, c'est 500 euros. Mais plusieurs études soulignent l'impact assez faible donc de ces allocations familiales.
Mise en place. Vous qui êtes souvent sur place, alors finalement, comment vous ressentez les choses sur le non désir d'enfant?
En fait, il faut dire que en Russie, surtout ces dernières années, liées aux sanctions financières que l'Occident avait imposées sur la Russie, les Russes ils ressentent vraiment les difficultés financières. Après, il faut savoir que si on prend ces 25 dernières années, la natalité a quand même monté un petit peu. C'est surtout la mortalité qui monte. C'est ça la raison de la crise démographique en Russie. Et c'est dû notamment aux difficultés donc, de ces années 90, de la crise, des problèmes, de l'alcoolisme. sont les problèmes de santé. Voilà un peu la situation. Et il faut savoir qu'on entre quand même dans l'année électorale, comme on avait dit aussi en parlant d'autres sujets dans cette émission. Et Vladimir Poutine a fait déjà des questions démographiques la priorité de tous ses mandats. Donc il est déjà 18 ans au pouvoir. Ouais. Et s'il voulait vraiment régler
le débat sur l'avortement.
Ah oui, ça. De toute manière, la baisse de la natalité en Russie a aussi provoqué un débat d'ampleur autour des avortements. Surtout, l'Église demande d'interdire les avortements qui sont autorisés à partir de 1955 en Russie. Et d'ailleurs, l'avortement est couvert par la sécurité sociale.
Remboursé.
Donc, finalement, l'Église demande, et pas seulement l'Église, mais aussi les personnes qui luttent justement pour une loi interdisant l'avortement. Ils ont fait adopter une pétition avec les signatures, 1 million de signatures, y compris de patriarches de Moscou, de Russie, Cyril, qui a signé aussi cette pétition.
Contre l'avortement.
L'avortement. Mais pour l'instant, les autorités n'ont pas interdit l'avortement. En revanche, on a quelques mesures, comme par exemple donner une semaine, qui s'appelle une semaine de silence à une femme qui a décidé de faire un avortement. Donc elle fait une échographie, elle fait une visite médicale.
Une semaine de réflexion,
c'est ça. Une semaine de réflexion, ça s'appelle comme ça.
Qui a été supprimée en France. Elena Gabriel, Paola Martinez, alors je le disais tout à l'heure, mais vous l'avez appris que vous passez votre temps sur la toile, notamment pour dénoncer une appli que je trouvais assez positive de rencontre entre mamans, puisque maintenant il y a des applications
partout. Et surtout.
Ouais.
Et là j'ai découvert, en fait, en lisant la presse espagnole, il y a une application qui s'appelle Peanut, qui s'appelle Cacahuète, carrément, donc c'est du cacahuète, il faut le dire. C'est un peu les Tinder des mamans.
Mais qui fonctionne où, en fait, en Amérique
Non, pas du tout. En Angleterre et aux États-Unis. C'est assez anglo-saxonne, ouais. Enfin, anglophone.
Alors, ça fonctionne, en fait, comme Tinder. C'est-à-dire qu'on fait défiler des photos avec des profils.
Tout à fait.
Sauf que c'est pas du tout.
Des mamans avec ses bébés.
Donc, c'est pour chercher des copines mamans.
Oui.
Quand on est soi-même maman et qu'on s'ennuie.
C'est pathétique, je suis désolée, mais c'est pathétique. En fait, oui, bien entendu. Attends, quand j'étais maman, vous êtes vous aussi maman, peut-être. Ah, et il y a un moment donné, quand on est jeune maman, on est très content d'avoir notre bébé et on se sent un peu seul. Bien entendu, mais pour cela, on va au parc.
Jardin public.
Au jardin public.
Il y a des jardins publics, il n'y en a pas dans toutes les villes.
Bien entendu, mais là, en fait, cette initiative est sortie d'une femme britannique qui a la trentaine, assez jolie, très jolie femme d'affaires, etc. Ça s'appelle Michelle Kennedy. Et elle a décidé, en fait, de créer, parce qu'elle avait eu son premier bébé, cette application qui va connecter toutes les femmes qui ont des enfants et qui forcément sont enfermés chez elles.
Mais donc, sans ça crée avoir de l'entraide, du partage de problèmes, non ?
Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est exactement les mêmes arguments qu'utilisent pour les Tinder, pour les rencontres hommes-femmes. Je trouve ça pitoyable qu'aujourd'hui, l'humanité, il soit conditionné, en fait, à passer par une application pour rencontrer des gens, alors que dans la rue, on ne regarde pas les autres, en fait.
Non, mais vous voyez aborder une autre maman avec son enfant dans sa poussette.
Moi,
tiens, j'ai une galère pour garder mon gamin, je pourrais peut-être...
Oui, et d'ailleurs, oui, c'est comme ça que ça fonctionne.
Sérieux. Paola,
moi, je suis très optimiste sur le fait qu'il faut Samia. Encore miser sur les rencontres, réelles rencontres.
Elle est fâchée, Paola.
Ouais.
Non, mais moi, franchement, bon, c'est rigolo, c'est drôle. Bon, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de ça, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. On invente tellement de choses, il y a tellement d'applications qui ne servent à rien. Si ça peut aider une maman isolée, pourquoi pas? Une maman qui est timide, qui n'ose pas, qui ne connaît pas grand-chose, qui ne connaît pas grand monde, ben, franchement, ça ne me dérange pas plus que ça.
Ouais, tout dépend en fait, aussi de la mentalité des sociétés, parfois. Quand je suis en Arménie dans le jardin, je vois des gens qui s'approchent de moi et qui parlent. Quand je suis en Ukraine, c'est beaucoup plus, les gens ils sont beaucoup plus réservés.
Ouais,
alors là,
oui, ça,
peut-être
voyez,
dans
donc...
certains pays, en fonction de leur ouverture ou de l'approche facile, voilà, peut-être ça peut marcher.
Mais c'est vrai que c'est vrai que je comprends Paola sur l'aspect un peu manque de chaleur humaine. C'est-à-dire que les gens ont l'air beaucoup plus chaleureux à travers un écran et quand ils se voient, il n'y a plus d'humanité. On a l'impression qu'ils ont du mal à se parler.
À avoir des relations
virtuelles.
Voilà,
pour faire des rencontres, voyager, Elena Gabriel, c'est ce que vous...
Sortez votre tête
vous avez grandi en ex-URSS et vous conseillez de découvrir la Géorgie, nouvel Eldorado touristique.
Georgia is considered as a cradle of winemaking in the world. enjoy every place in Georgia and you will need to come back and you will love this country.
Ça, c'est un extrait de clip qui vante les mérites de la Géorgie.
Voilà, la Géorgie
avec raison
devient...
ou pas, Yelena ?
Oui, la Géorgie devient une tendance 2018, c'est dans le top 10.
Vous dites ça d'un ton très sérieux. Mais...
non, mais beaucoup de guides touristiques mettent vraiment ce pays dans le top 10. Et pour cause, parce qu'il y a 12 000 sites touristiques et c'est une destination à 4 saisons, ski en hiver, mer noire.
Donc vous êtes salarié du clip
Non, tout à fait. Non, pas c'est juste que j'ai voyagé plusieurs fois en Géorgie et j'aime beaucoup le Caucase du Sud pour sa chaleur, pour son hospitalité. Et les Géorgiens disent que tout invité est un messager de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très bien reçus. Et il faut savoir aussi que le vin géorgien, est, déguster du vin géorgien élaboré comme à l'époque très très ancienne, on peut toujours voilà, et c'est un pays aussi chrétien où il y a beaucoup beaucoup d'églises, beaucoup
visiter,
de vestiges,
tout comme d'où en les Arménie, proverbes d'ailleurs chez
absolument, d'où les proverbes un peu très religieux, on trouve assez souvent. Donc voilà. Finalement
bon, c'est une arménienne qui nous vante donc les mérites de la Géorgie.
Non, j'insiste qu'on fasse le passage par l'Arménie évidemment aussi bien pour ses églises, pour son vin et pour sa gastronomie. Voilà, donc si vous pouvez 3 semaines faire
c'est
l'Arménie
une
la Géorgie
intéressante hein, qu'il faut découvrir pour même
un climat très doux l'hiver hein, pour la Géorgie, je crois.
Ça dépend des régions. Si vous êtes à Sfaneti, donc vous pouvez, les avalanches de neige peuvent vraiment
vous
poser des problèmes hein, pour le voyage. Bon. Mais en Tbilissi, c'est magnifique.
Donc vous il faut passer par l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan, pas très loin. Mais bon, ils sont pas très amis, donc c'est bien pour comprendre la géopolitique.
Vous restez avec nous, les tchatcheuses. Dans quelques instants, nous dînons dans un restaurant naturiste. Ça sera juste après.
Déshabillez-vous.
Chégué. C'est une bonne surprise musicale, Chege When You Walk. Voilà, des filles qui chantent très rock, très, très Europe centrale, j'aurais dit, et pourtant françaises d'origine congolaise. On passe à un tout autre sujet. On parle de choses sérieuses dans cette émission. Une expérience culinaire, pas comme les autres. Un restaurant naturiste a ouvert ses portes il y a 2 mois dans le 12e arrondissement de Paris. C'est le premier de ce type dans une capitale mondiale en dehors d'une expérience de restaurant éphémère qu'il avait eu à Londres en 2016. Et puis bien sûr, il y a des campings naturistes. Alors, naturiste, ça veut dire on est tout nu de l'extérieur. C'est difficile de deviner qu'en entrant dans ce restaurant, il faudra se déshabiller. Il n'y a pas de pancarte pour le signaler. Seulement un menu qui est affiché à la porte, une vitre occulté, évidemment. Seul indice peut-être le nom au naturel. Et Charlie Dupio est arrivé à 19h. Elle est maligne. Bien avant l'arrivée des premiers clients, histoire de ne pas être obligé de travailler avec pour seul vêtement son micro. Mixada, cofondateur de cette cuisine à poil.
Le client rentre, on l'accueille et on lui donne une paire de chaussons. Voilà. et ensuite on l'accompagne au vestiaire. Donc on pousse le rideau, on l'invite à mettre ses vêtements et son portable, parce que les portables sont interdits en salle, pour éviter d'avoir une photo qui va après sur Internet, etc. Et pour que tout le monde soit en sécurité à l'intérieur, en toute discrétion.
Ici, on va se déshabiller dans ce vestiaire.
Ouais. On a eu aussi des surprises ici, c'est-à-dire que les gens sont rentrés et monsieur n'avait pas dit à madame où, dans quel restaurant se trouvait.
Elle allait devoir se mettre nue.
Voilà, et en fait, à chaque fois, les gens ont joué le jeu.
Et on n'a évidemment pas de vestiaire individuel où se changer.
Voilà, on prend la température ici, puisque dans quelques secondes, ils vont se retrouver tous ensemble, donc ça sert à rien de mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ou alors des petits casiers individuels, puisque tout le monde va se retrouver dans la même salle dans quelques secondes.
Là, on passe un autre rideau.
Voilà, on passe le rideau, et là, on arrive dans la salle. Donc là, c'est le grand moment, parce qu'en fait, ils se retrouvent là, face à la salle. Donc là, ils découvrent le restaurant pour la première fois. Pour le client qui essaye pour la première fois, c'est le moment le plus dur, c'est le rideau.
Et ici, en fait, c'est comme une salle de restaurant classique. On a une vingtaine de tables recouvertes de nappes.
Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a des housses à usage unique.
Effectivement, là, on voit que chaque fauteuil est recouvert d'une housse noire.
Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on débarrasse une table, on change la housse à chaque fois. Comme ça, l'hygiène est respectée.
Et en fait, vous dites que le moment le plus difficile, c'est de passer là ce rideau. En passant le rideau, on voit aussi une salle remplie de clients qui sont déjà nus.
Mais ça met justement plus à l'aise les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi que tout le monde soit nu et de ne pas mélanger avec les textiles, parce qu'il n'y a pas de mauvais regard, il y a du respect.
Et quand vous dites les textiles, ça veut dire les gens habillés, en fait.
Oui, voilà. Voilà, c'est les gens habillés, parce qu'en fait, c'est un choix qu'on a fait de dire tout le monde doit être nu, sauf le personnel.
En cuisine, le cuisinier est habillé.
Ça, c'est une évidence, parce que c'est l'hygiène. Donc, les cuisiniers sont habillés et les serveurs aussi. Mais sinon, tout le monde doit être nu.
Et alors, il fait très froid en ce moment dehors, c'est l'hiver.
On chauffe beaucoup, c'est-à-dire qu'on met nos chauffages à 27. Je sais qu'en ce moment, il fait froid, ça donne pas envie de se dire je vais me déshabiller, il va faire froid, etc. Mais nous, on met le paquet en chauffage pour qu'à l'intérieur, ce soit un petit cocon. On a trois clientèles. On a les naturistes qui sont habituels, en fait, qui ont vraiment l'habitude. Donc là, ils disent il y a le restaurant naturiste, je vais y aller. C'est sympa. Et voilà, ils retrouvent cette bulle, cet oxygène qu'ils ont pendant les vacances. Et là, ils peuvent la retrouver ici, comme en fait on sait qu'il y a un besoin puisqu'il y a entre 2 millions et 2 millions et demi de naturistes en France, ce qui est quand même considérable. On a les gens qui veulent essayer pour la première fois et on en a beaucoup, on est très surpris, on a beaucoup de personnes. Alors c'est des couples, c'est des bandes d'amis, hommes ou femmes, c'est énormément des jeunes. En fait c'est entre 25 et 35-40 ans. Et on a une troisième clientèle qui sont les touristes. Et les gens viennent sur réservation, ils connaissent l'adresse, ils sonnent et voilà, ils rentrent à l'intérieur.
Il faut sonner pour rentrer.
Il faut sonner pour rentrer, ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'arriver là dans le restaurant naturiste. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ?
Oui.
Oui, première fois ici.
Vous êtes venu en couple ?
Oui. Oui.
On est naturiste à la base, donc on voulait découvrir.
Vous habitez Paris ?
Non, on vient de Bourgogne. On est en vacances sur Paris, on part en Guadeloupe en bungalow naturiste pendant 3 semaines et donc on profite d'être à Paris pour venir ici.
Et à quel moment du coup vous pratiquez le naturisme ?
À la maison en permanence.
Tout nu ?
Tout nu, tout nu. Dès que le temps le permet aussi à l'extérieur, quoi.
Donc voilà. Ce n'est pas la première fois que vous allez manger nu ?
Non, du tout.
Alors justement, ça tombe bien, je voudrais vous demander, moi j'ai pas encore fait, quel est l'intérêt en fait de manger nu ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Il n'y a pas de contrainte de vêtements, ni de paraître en fait. Quand on va au restaurant, en général, on s'habille plus ou moins bien. Et puis là, on est tous comme on est. La seule chose qui fait un peu le paraître quand on part en camping ou des choses comme ça, il n'y a que la voiture. Le reste, on ne voit rien. Qu'il soit PDG ou qu'il soit ouvrier, on ne le voit pas.
Ah, c'est intéressant ça, je n'avais pas pensé à ça. Le fait qu'on ne voit pas la classe sociale. Voilà. Et vous recevez nu quand vous recevez des gens à dîner ?
Ça arrive.
Est-ce que comme dans ce restaurant, vos convives doivent aussi être nus chez vous ?
Non. De toute façon, s'ils sont naturistes, oui. On est tous nus et puis autrement non, on est habillés, ils sont habillés, on n'impose pas non plus notre nudité aux personnes qu'on reçoit à la maison s'ils ne sont pas naturistes.
Et depuis combien de temps vous êtes naturiste ?
4 ans, pour moi et puis
moi,
lui.
Depuis quasiment toujours. Voilà, mon grand-père était déjà naturiste, j'allais en club naturiste en Bourgogne avec lui.
Et vous avez été converti alors par votre compagnon ?
Au fur et à mesure, il a réussi à me mettre en confiance.
Moi, je me posais la question en mangeant nu, de fait, on voit son corps. C'est-à-dire que si on n'est pas très à l'aise, par exemple, si on se trouve un peu rond ou quoi, on le voit. Comment ça se passe par rapport à ça ?
C'est ce que j'allais dire, ouais, on en fait complètement abstraction, quoi. Moi qui n'accepte pas mon corps, mais après, il faut pas regarder le regard des autres.
On est quand même la première destination naturiste au monde. Il y a quelques plages naturistes aussi surtout le littoral français.
Avec notamment beaucoup d'Allemands qui viennent.
Ben parce qu'en Allemagne, c'est même plus toléré qu'en France. Le temps s'y prête un peu moins, mais par contre, vous allez dans un parc à Berlin, vous pouvez vous mettre nu.
Est-ce que vous l'avez dit à votre entourage, votre famille, vos amis ?
Alors effectivement, il y a certains membres de ma famille et certains amis qui sont au courant, mais pas tous. Je ne l'assume pas encore totalement. Délicat.
Moi, je vous laisse vous déshabiller.
Merci.
Comment ça fait chaud ? Vous n'avez pas chaud, vous ?
C'est vrai qu'il fait très chaud, oui. Bon, bah, bon dîner, bon appétit.
Merci.
Voilà comment Charlie Dupuis, en s'éclipsant au début du dîner, a échappé Charlie à les feuillages. 40 à 50 euros quand même hein, par menu dans ce restaurant parisien. Donc ça vous inspire les filles ?
Oui, moi oui.
Ah bon ?
Bah, j'aimerais surtout savoir ce qu'on y mange.
Alors moi ce que je trouve extraordinaire, c'est cette possibilité de vivre sa différence. Enfin, c'est naturel, c'est vrai. Les gens ont le droit de se déshabiller, c'est comme ça qu'ils sont nés. Et je trouve ça formidable qu'à Paris, qu'en France, on puisse vivre ça.
Moi,
c'est ce que je trouve magique.
Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas la différence.
Ça ne vous inspire pas personnellement.
Ah non, moi, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas moi. Mais je trouve ça génial que des gens puissent aller dîner comme ça.
Et surtout sans téléphone. Ça, c'est super, je trouve. Ça,
moi, j'irais volontiers. Hein.
Ah oui,
d'accord. Des jeunes, oui,
donc, un garçon vous invite, en vous donnant rendez-vous dans ce restaurant.
Peut-être pas
naturel.
Premier rendez-vous, mais je pense que oui, c'est une expérience intéressante à vivre, je pense. Ouais.
Nu, rien ne trahirait la classe sociale. C'est pas un peu naïf.
Oui, c'est vrai que c'est un peu naïf, mais en même temps...
Non, c'est plus les vêtements qui parlent de nos apparences.
Déjà, les classes sociales au resto, je pense que les gens qui ont un peu d'argent, ils vont au resto.
Ouais,
il faut le dire, parce qu'il y a
un
menu à 50 euros quand même.
Ouais. Hein, et puis moi, enfin, je sais pas, ça me dérange pas de voir la classe sociale des gens, ça me dérange pas du tout. Emmanuel, vous nous avez rien dit. Vous tenteriez l'expérience ou pas ?
Non, je ne tenterai pas l'expérience, surtout à Paris. Non, effectivement, il faut que le climat s'y prête, l'ambiance. Non. En tout cas, c'est quand même un bon plan marketing et business. Les deux cofondateurs sont des jumeaux et ils ont choisi le 12e parce que il y a une association de naturistes parisiens très active dans ce même arrondissement. Donc voilà, ça fallait y penser hein, quand même.
2,5 millions de naturistes.
C'est un marché de niche, dirons-nous.
Oui. Hein. C'est un bon business, ouais.
À très bientôt les tchatcheuses, merci d'être venues, merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Demain, 7 milliards de voisins, reconstruire sa vie hors de Syrie avec Omar Youssef Souleyman, poète exilé. Il sera en direct chez nous, chez 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. Appel sur l'actualité.